Pauline Pucciano, La petite sirène. La métamorphose fut douloureuse, indiciblement. La sirène regarda ses écailles bleutées se confondre et disparaître dans l'eau. Elles s'étaient éparpillées comme des éclats de verre, et plus rien ne restait de la peau douce et brillante qu'elles avaient constituée. À peine le souvenir d'un corps sans déchirure et de son ondulation sereine. Le souvenir aussi de la caresse infinie de l'eau, de cette eau devenue étrangère, froide, que son corps ne reconnaissait pas. Elle fit quelques pas sur le rivage. Une légère douleur la traversa, et la sirène se demanda si toutes les femmes humaines ressentaient cette douleur lorsqu'elles faisaient passer l'une de leurs jambes devant l'autre. C'était peut-être le prix à payer pour tant de grâce, pour la beauté de ce corps qui se dédouble et se rassemble sans cesse dans son mouvement. Sortir de l'eau lui parut étrange, étrange de franchir l'impalpable barrière d'écume qui l'avait si longtemps retenue prisonnière. Elle se retourna lorsqu'elle fut sur le sable et regarda la mer longtemps, la mer qui de ce côté avait une autre immensité, plus mystérieuse, une autre couleur et un horizon plus lointain. Elle eut envie de gravir une falaise pour regarder la mer d'en haut et de s'étendre sur son sommet pour la regarder à l'envers, puis elle se souvint qu'elle avait payé cette magie d'une promesse et pressa le pas vers le palais d'ocre et de lierre, qui semblait fait de sable, et dont elle apercevait les plus hautes tourelles. L'accélération de sa marche approfondit sa douleur, et lorsque des larmes involontaires atteignirent ses lèvres, le goût du sel la brûla comme un remords. Nul ne savait au palais ce que faisait le prince de ses longues journées solitaires. Cloîtré dans ses appartements, il sortait chaque soir après la tombée du crépuscule, soit qu'il reçût des hôtes, soit qu'il disparût dans l'ombre sur son cheval. Nul ne savait où il allait par ces soirs, et d'étranges bruits couraient, parmi les domestiques, sur la débauche qui rongeait la peau des jeunes filles mouchetées et des messieurs élégants qui l'invitaient à souper. On entendait parfois des airs de musique passer les épaisses cloisons, parfois de fugitifs éclats de rire ou des exclamations brutales. Mais la plus vertueuse des servantes affirmait qu'elle avait entendu un jour, dans l'heure qui précède midi, un sanglot grave résonnait jusqu'à elle, beau comme un chant sacré. Ce matin-là, le prince sortit du sommeil assez tôt. Il se caressa le visage et ouvrit les yeux au moment où ses longs doigts sentirent la barbe qui, inlassablement, avec une rigueur tout organique, perçait sa peau chaque nuit. « Un autre matin, » songea-t-il. Il demeura quelques minutes, parfaitement immobile, à observer les splendeurs de sa chambre. Une lumière fine pleuvait sur la grande statue blanche, sur laquelle il avait enfilé le vêtement de velours damassé qu'il avait porté la veille. On entendait le bruit lointain du ressac, et il se pénétra de l'image mouvante de la mer. Machinalement, il agita le cordon de la sonnette. Il était accoudé à la balustrade de la terrasse lorsque la servante arriva. « Vous ne travaillez pas ce matin ?» demanda la vieille femme en posant le plateau chargé de gâteaux sur le bureau du prince. Il se retourna, et elle fut frappée, comme à chaque fois, par la beauté inconcevable de ses traits. Il était beau de cette sorte de beauté qui répand l'amour et la mort. « Non, » dit-il nonchalamment. « Vous me disiez hier encore que l'étude était tout ce qui vous faisait vivre. » Il eut un vague sourire. « C'est qu'aujourd'hui plus rien ne me fait vivre. » La servante détourna le regard. Elle détestait plus que tout au monde ces matins où le prince était d'humeur chagrine. « C'est une femme qui vous désespère ?» Le prince hocha la tête et s'assit à son bureau. Il savait que la vieille servante resterait derrière lui, veillerait sur son repas, s'attristerait de ses réponses et lui rendrait, au bout du compte, un peu de l'envie de vivre dont il se sentait vidé. « Oui. » La servante fit un soupir de surprise. « Mais ne criez pas victoire trop vite, » ajouta-t-il. « Celle qui me désespère est celle que je désespère de rencontrer. » La servante s'assit silencieusement derrière le prince. Et toutes ces femmes parfumées avec qui vous soupez? Il faut bien repaître mon corps des sensations les plus incongrues. Cela endort mon âme. » Elle ne répondit pas, et il sourit en reprenant un gâteau, à la pensée qu'elle était outragée, mais qu'elle ne dirait rien. « Parfois j'ai l'impression que vous vous moquez de moi, » dit-elle au bout d'un silence. Il se sentit blessé en un lieu profond, et le visage qu'il lui tendit en se retournant était pur de tout mensonge. « Tu penses ce que tu dis ?» Encore la surprise de ce visage surhumain, et celle, plus grande encore, de cette chaleur dans le regard, qui ressemblait à de la reconnaissance. Elle rougit et baissa la tête. « Non, » articula-t-elle. Si j'avais moins de dignité, dit-il en se tournant à nouveau, je consacrerais cette belle journée à pleurer dans tes bras. Elle s'approcha et posa l'une de ses mains calleuses sur l'étoffe délicate de sa chemise. « Si cela pouvait vous guérir, » dit-elle d'une voix ténue. « Me guérir de quoi ? De mon vice ?» Elle retira sa main et commença à faire les 100 pas dans la chambre. « Ce sont toutes ces femmes et tout cet alcool qui vous rongent. Si vous vouliez m'écouter, arrêter cette débauche et repartir pour une vie nouvelle, chercher une épouse, courir la dot, eh bien, tu ne vois pas comme c'est laid ?» Elle sentait la colère, la rage même, grandir dans sa voix. « Que voulez-vous ? Rencontrer par hasard une pauvre jeune fille ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous seriez capable de l'aimer ? Mais soyez un peu honnête, au moins. Vous ne supportez que les choses délicates et complexes. Et croyez-moi, les jeunes filles délicates et complexes ont souvent une jolie dot. C'est une loi de nature. » Il sentit sa lèvre trembler. « Sors !» Elle s'arrêta brusquement. « Sors !» cria-t-il à nouveau. Elle le regarda fixement et vit sa lèvre tremblante. « Pardonnez-moi si je vous parle ainsi, » dit-elle d'une voix blanche. « C'est que je vous aime comme un fils. » Il baissa la tête et poussa du revers de la main le plateau, qui s'écroula par terre dans un fracas. Elle s'approcha, s'agenouilla auprès de lui, et ramassa scrupuleusement les miettes et les éclats de porcelaine. Il s'était pris la tête dans les mains, et elle n'entendait pas même sa respiration. Cela dura longtemps, puis elle se releva, avec difficulté, et emporta dans ses bras maigres les restes de ce matin saccagé. La sirène se souvint de l'impression confuse d'être portée par l'eau. L'eau était plus lourde et son corps plus léger en elle, et cette équation effaçait presque la différence entre les deux. Le mouvement ondulant de son propre corps n'était qu'une modulation de celui perpétuel de l'eau. À certains moments même, il lui semblait devenir un courant. Il était facile, agréable et merveilleusement nouveau de se mouvoir dans l'air. L'air était si léger qu'elle avait l'impression d'évoluer dans le vide. Lorsqu'elle levait le bras, l'élément ne lui opposait pas la moindre résistance. Son corps avait, en sortant de l'eau, gagné une liberté qu'elle n'avait jamais soupçonnée. L'immobilité de la roche lui était désormais aussi accessible que le mouvement dansant des algues. Elle sentait à chaque instant, avec une enivrante acuité, son corps pesant, distinct de tout le reste, son corps capable d'immobilité, de brutalité, son corps dont le mouvement et la douceur n'en étaient que plus admirables. Inconsciente de la douleur qui transperçait ses os, elle songeait aux infinies virtualités de sa nouvelle forme et, emplie jusqu'au débordement d'un enthousiasme de vie, elle parvint au bas du château sans avoir pris la peine de recouvrir sa nudité. Le serviteur en faction dans l'entrée montra plus de surprise que d'empressement lorsqu'il entendit à travers sa somnolence les coups légers et répétés du marteau. Les hôtes du prince n'avaient pas pour habitude de lui rendre des visites aussi matinales, les livreurs passaient par l'entrée de service, et pendant le temps qu'il mit à traverser le hall immense, le serviteur se paria à lui-même qu'il s'agissait d'un voyageur égaré. Il ouvrit consciencieusement la porte, les yeux rivés au sol, puis il les leva. Elle était nue, belle, blonde, souriante, charmante, immobile. Elle le regardait avec confiance, et s'il était sûr de ne point rêver, c'était parce que son imagination n'avait jamais inventé de créature aussi splendide. « Madame » balbutia-t-il dans sa stupeur. Elle s'arrêta de sourire et désigna sa bouche d'un air désolé. Il fut pris de panique et appela au secours. Il y eut alors dans la salle, derrière le seuil où se tenait la sirène, un mouvement de corps et de vêtements vertigineux, un mouvement qui prenait naissance anarchique de toutes les portes et de tous les escaliers et qui convergeait vers elle. Elle resta émerveillée quelques secondes par la diversité des visages qui passèrent devant elle, et elle chercha des yeux le seul qu'elle put reconnaître, celui qu'elle adorait, mais sans y parvenir. Elle fut prise dans le mouvement de cette foule, sans l'avoir cherchée. Des mains l'attiraient, la poussaient, des têtes interloquées lui faisaient signe de se déplacer par ici et par là, et elle entendait un curieux entrechoc de phrases qui toutes la concernaient. Belle, muette, nue, étaient les mots qui revenaient à intervalles réguliers, folle et simple s'y mêlaient parfois. Cela ne dura pas longtemps, et elle se retrouva presque aussitôt dans une autre pièce, plus claire, avec quelques vieilles femmes qui avaient refermé derrière elle la porte à clé. « D'où viens-tu, ma jolie ? » demanda l'une d'elles. « Est-il vrai que tu ne peux pas parler ?» La sirène acquiesça vivement et fit de la main un geste vague en direction de la mer. Elle a peut-être fait naufrage. Ou bien c'est peut-être un ange, dit rêveusement la première. La sirène sourit, mais une angoisse inconnue commençait à monter de son ventre vers sa gorge. « Regarde comme ses yeux sont devenus sombres, » remarqua la deuxième, « comme la mer à l'approche de la tempête. Au lieu de la dévisager, il faudrait peut-être avertir Monseigneur. Oh, comme ses yeux se sont éclaircis! Tu veux voir Monseigneur ?» La sirène hocha la tête. En quelques minutes, on lui avait trouvé une robe d'apparat ayant appartenu à la défunte reine, on avait noué ses cheveux qui traînaient sur ses hanches, et dans une émotion singulière, on lui avait fait gravir les marches qui s'arrêtaient aux portes des appartements du prince. « Vivre, » songeait-il, « vivre avec toutes les richesses de la beauté et du pouvoir. » Il contemplait avec dégoût le reflet dans son miroir, sans parvenir à trancher si c'était la perfection plastique du corps ou le luxe de son vêtement qui l'amenait à cet écœurement. Il n'y avait pas un caprice qu'il ne pût assouvir. La vie s'offrait à lui inerte, vaincue d'avance, et son désir défaillait. Voulut-il passer son temps à collectionner les femmes, à accomplir un éternel voyage, à amasser encore plus de puissance? Rien ne l'en empêchait. Toutes les routes lui étaient pareillement lisses, tous les cheminements pareillement faciles. Qu'y avait-il à vouloir? Quoi? Quelle quête? Quel objet? Vivre au sommet désert de cette absurde hiérarchie, vivre tous ses jours et toutes ses nuits avec cette volonté infirme. La langueur, après tout, était peut-être le lot des princes. « Monseigneur !» Encore elle, qui s'excuserait sans doute de la scène de ce matin. Il n'avait pas envie de la voir, il sentait son cœur sec et méchant comme celui d'un insecte. « Va-t'en » dit-il. « Il y a quelque chose d'important, » poursuivit la voix avec détermination. Le prince se dirigea vers la porte en soupirant et composa sur son visage un rictus agacé. « Qu'y a-t-il d'important ?» demanda-t-il en ouvrant la porte. La sirène se tenait derrière la servante, et lorsqu'elle aperçut le prince, l'angoisse qu'il avait tout à l'heure étreinte décupla dans sa poitrine. « Une jeune fille muette s'est présentée au palais ce matin, » expliqua lentement la servante. « Elle était entièrement nue, mais ne semblait pas s'en émouvoir. Nous l'avons habillée du mieux que nous avons pu, avec une robe de feu votre mère, et... Et alors ?» Elle avait les cheveux mouillés, monseigneur, et lorsqu'on lui demande d'où elle vient, elle désigne la mer. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ce que je veux que cela vous fasse, mais... Mais l'avez-vous regardé? Elle se poussa de quelques pas, et la sirène apparut dans sa grâce. Le prince resta fasciné quelques instants par le scintillement incertain de ses yeux mouillés, où chatoyaient des teintes de bleu, de gris et de vert. Elle était couverte d'une lourde robe noire et or, trop grande pour elle, qu'elle semblait avoir de la peine à soutenir, et ses cheveux tressés, selon les jeux de la lumière solaire, avaient d'étranges reflets verdâtres. « Laisse-nous, » dit le prince d'une voix lointaine. La servante s'exécuta, et jusqu'à ce qu'on n'entendît plus le martèlement de ses pas sur la pierre, le prince et la sirène demeurèrent immobiles. « Entre, » lui dit-il. Elle fit quelques pas dans la pièce, et se retourna avec un sourire chargé d'un amour si flagrant qu'il dut baisser les yeux. « Nous nous connaissons ?» Elle fit oui de la tête et s'approcha de lui. « Il me semble en effet avoir vu ton visage, mais c'est étrange que je ne me rappelle pas en quelles circonstances. » La sirène ne semblait pas se soucier de ce qu'il disait, et son regard rayonnant le clouait, figé. « T'ai-je aperçu en rêve, dans la fièvre qui suivit mon naufrage ?» La sirène fit oui de la tête, un oui plus énigmatique et plus langoureux. Elle leva son bras dans un mouvement d'une inconcevable lenteur et tendit la main vers le visage du prince. « Que veux-tu de moi ?» murmura le prince. Elle sourit à nouveau tandis que sa main, semblable à la soie, caressait la joue brune. Le prince sentit un frisson faire frémir sa chair. La sirène cependant retira sa main et porta les yeux vers le reste de la pièce. Comme aimanté, son visage se tourna vers le miroir, et sans un regard pour le prince, elle marcha vers lui. Il voyait, par-dessus l'épaule de la sirène, son reflet dans la glace. Elle paraissait presque effrayée, interdite, devant sa propre image, et tendit le bras vers le miroir, comme si elle pouvait en traverser le teint. Le choc de sa main contre la surface fit un petit bruit sourd, et une douleur éphémère se répandit dans son poignet. Elle regarda encore, et découvrit derrière son propre reflet l'image du prince. Elle contempla un moment ses cheveux emmêlés et la courbe de ses lèvres. Cette contemplation l'emplissait d'une sensation étrange, comme une envie de mourir ou d'éclater. Elle songea à ce qui l'attendait peut-être, à la blanche écume se dissolvant sur la mer, et jura de se dissoudre mille fois, si elle pouvait, une fois, embrasser cette bouche et étreindre ce corps. Il s'approcha d'elle et dénoua ses cheveux. Il était tard déjà, et depuis toutes ces heures, ni le prince ni son étrange compagne n'avaient paru. La servante avait passé la journée tenaillée par une impatience insupportable, ne sachant qui bénir, de Dieu ou du diable, pour le miracle de cette arrivée. Elle ne doutait pas un instant que leur jeunesse et leur beauté ne se fussent reconnues. Elle attendait seulement, fébrile, de lire enfin sur le visage chéri l'avènement de la paix. Elle faisait les 100 pas, comme à son habitude, dans le hall d'entrée, lorsqu'elle entendit le marteau qui frappait brusquement à la porte. Elle se signa machinalement et alla ouvrir à l'étranger avec le pressentiment confus qu'elle allait faire entrer au château un malheur irréparable. C'était un cavalier, habillé comme un citadin qu'un long voyage a souillé, un cavalier ordinaire, à l'allure épuisée. « Bonsoir, » lança-t-il en descendant de cheval. « Je viens porter au prince un message de sa cousine. » À ces mots, la servante eut un sourire involontaire. « Quel est-il ? Elle viendra lui rendre visite, demain. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu la princesse. » Le messager sourit, sans savoir que répondre. « Est-elle toujours aussi ravissante ? Comme l'aurore. » La servante appela un valet qui s'occupa du cheval et invita le messager à la suivre aux cuisines. En repassant le seuil, elle se souvint de l'ange qui devait sommeiller au creux du prince et sombra dans une tristesse sans fond. La lumière tombait noircie sur la statue de la chambre. La terrasse s'ouvrait sur le crépuscule marin. Le prince s'arracha à la peau tiède de la sirène et s'accouda à la balustrade. Bien qu'elle fût encore engourdie d'un plaisir immortel et qu'elle n'eût pas envie de bouger, elle se leva pour le rejoindre. « C'est le soir, » dit-il. Elle regarda dans la même direction que lui. Des traînées roses illuminaient le ciel sombre. « Il y a toujours un moment où l'on se demande si le jour va mourir ou se lever, » dit-il. « Alors je me concentre. J'imagine que c'est l'aube. » Elle cessa de regarder le ciel et tourna la tête vers lui. « C'est chaque fois la même déception, une tristesse qui ne ressemble à rien d'autre. » Elle aurait voulu lui demander pourquoi il s'infligeait ce spectacle, pourquoi il ne veillait pas jusqu'à l'aube pour voir son attente comblée. Elle aurait voulu lui parler du perpétuel crépuscule sous-marin et des ténèbres épaisses qui s'abattaient sur son palais lorsque les nuits étaient sans lune. Lui dire combien ses clartés roses étaient belles, lui dire surtout de ne pas la trahir avant le 3e jour. Vivre, avec en elle le souvenir immortel du plaisir, regarder toutes les aubes. « Tu ne parles pas, » dit-il, d'une voix qui n'attendait pas de réponse. « Non, » pensa-t-elle, « je ne parle pas, j'ai vendu ma voix, et je ne pourrai jamais te le dire. » Il la regarda. « Tu n'as jamais parlé ?» Elle fit signe que non. À quoi bon le laisser poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre ? « C'est étrange, ce silence. C'est comme si tu ne rompais pas ma solitude. » Il avait l'air pensif, et elle reçut sa phrase comme un coup. Fallait-il donc parler pour être là, pour être quelqu'un d'autre ? Les mots pourtant encombraient sa tête et devenaient fous de ne pas pouvoir en sortir. Ils s'accumulaient, fébriles, désordonnés, et elle sentit que le moment viendrait où elle ne le supporterait plus. Elle tourna la tête et, en lieu de mots, ce furent des larmes qui sortirent d'elle, une hémorragie de larmes. Le prince était surpris. Il posa sa main sur le visage mouillé de la sirène. « Je ne saurai jamais pourquoi tu pleures, » dit-il, avec la lenteur cruelle des paroles lucides. « Tu pourrais pleurer de joie, pleurer d'être abandonnée sur cette terre où personne ne te reconnaît, pleurer sans savoir pourquoi. Je ne le saurai jamais. » Pleurer sans savoir pourquoi, songeait-elle. Pleurer ne voulait rien dire. Sourire ne voulait rien dire. Aimer ne voulait rien dire. Il la laissa en pleurs devant le crépuscule finissant, avec l'impression d'être cruel et de ne pas pouvoir s'empêcher de l'être. Il y avait toujours en lui cette voix visionnaire qui le prévenait de l'échec, et il ne croyait en rien au monde plus qu'en cette voix, qui avait toujours dit vrai, et qui s'élevait toujours à l'improviste, pernicieuse, impitoyable, pour détruire les espoirs absurdes. Il descendit furtivement aux cuisines, rapporta de quoi manger dans ses appartements et essaya dans son remords de consoler la sirène, mais ni l'un ni l'autre ne trouvèrent le repos avant d'avoir sombré dans les eaux troubles du rêve. C'était un matin sans grâce particulière. Une lumière banale envahissait la campagne et la côte. La princesse regardait par la fenêtre avec étonnement. Il eût fallu pour cette journée une lumière particulière, une lumière d'orage ou de printemps, et il n'en était rien. Elle avait beau guetter des signes dans les nuages du ciel et les vols des corbeaux, tout l'univers s'obstinait à demeurer inerte, illisible. Elle était seule à savoir combien cette journée était essentielle. Lorsque la voiture arriva aux abords du château, elle se souvint avec exactitude du visage du prince, dont elle n'avait gardé qu'une image figée, et se sentit imprégnée de lui, comme si son âme flottait, palpable et agissante, dans le domaine qu'il habitait. Elle contempla avec avidité l'allée bordée d'arbres séculaires et le velouté de la terre sablonneuse sur laquelle les chevaux laissaient à peine leurs traces. Elle se sentait emplie d'une émotion enfantine en retrouvant ce lieu qui lui apparaissait en cet instant précis comme le seul qu'elle aimait et où elle put vivre. Elle entra dans le château dans un état presque second et se souvint par la suite que, malgré la présence de la vieille servante qui avait dû lui prodiguer des compliments nombreux, elle n'avait fait qu'une chose en attendant le prince, respirer, de tout son être, l'odeur de pierre du château, le parfum vivant de son enfance. Lorsque le prince entra dans le hall et qu'il vit le profil inquiet de la princesse, il oublia en une fraction d'instant tout ce qui constituait son existence. Elle était là, et sa présence, qu'il ressentait jusque dans son propre corps, éclipsait tout le reste. Soudain, il se retrouvait vivant, dans une simplicité perdue. « Vous ai-je fait attendre longtemps ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle en souriant. « C'est tellement étrange de vous revoir. Pourquoi êtes-vous parti nuitamment la dernière fois ? J'ai passé 2 mois à essayer de le comprendre. Il y a combien de temps déjà ? Vous en souvenez-vous ? C'était à l'automne qui suivit la mort de ma mère, il y a presque 3 ans. Elle avait baissé les yeux et les releva brusquement. « Au bout de ces 2 mois, avez-vous finalement compris ?» Il sourit. « Je crois. » Elle avait une envie difficile à maîtriser de le prendre dans ses bras. Elle se souvenait de leur poursuite bruyante à travers cette même pièce et se sentit un peu amère pour tant de joie disparue. « Vous avez dû m'en vouloir, » dit-elle. « Quant à moi, j'ai espéré pendant plusieurs saisons que vous m'écririez une lettre. » Elle rit avec légèreté avant de reprendre. « Mais je ne devrais pas vous raconter tout cela. » Il s'était réhabitué à sa présence, comme un aveugle se serait réaccoutumé à la lumière et aux couleurs, et il ne pouvait pas prêter attention à ce qu'elle disait. Absorbé qu'il était par la contemplation des intonations changeantes de sa voix, de la teinte incarnée de son visage et de l'éclat surprenant de son regard. Toute l'exquise légèreté de l'enfance refaisait en lui surface, ainsi qu'un sentiment plus obscur et plus grave, comme un apaisement religieux. Il était inexplicable que le seul fait de la sentir là rendît vain tout le désespoir accumulé en son absence. Inexplicable et absurde qu'en sa présence, la perfection de ses traits, le luxe de ses vêtements et la vacuité de son temps pussent se charger soudainement d'un sens lumineux qui palpitait à portée de sa main, proche et réel comme un objet familier. Il allait pour lui dire combien il l'avait attendue sans le savoir, lorsqu'elle demanda « M'avez-vous fait préparer la chambre verte ?» L'évocation de ce lieu le rendait encore un peu plus à ce passé chéri qu'elle avait le pouvoir de ressusciter. Pourtant, la question en soulevait une autre. Pourquoi ne l'avait-il pas fait ? Et l'image de la sirène, précise, et en quelque manière blessante, s'abattit sur ses souvenirs. Elle remarqua son trouble et l'altération subtile de son expression. Une angoisse confuse la gagnait, puisqu'elle n'était pas maîtresse du bonheur qu'elle semblait lui avoir apporté. « J'étais occupée, » finit-il par dire. « On ne m'a pas prévenue de votre arrivée. Une affaire d'importance ?» Il la considéra avec curiosité, et admira le sang-froid qui la faisait sourire de cet air superficiel. « Une fort jolie jeune fille, » répondit-il avec un peu de méchanceté. Elle reçut le coup sans ciller. « Alors, auriez-vous la bonté de me la faire préparer maintenant ?»« Certainement, ma cousine. » La sirène était sortie de la chambre étouffante, et là, sur ce rocher rose chauffé par la lumière, surplombant l'infini bleu agité d'un éternel mouvement, abandonnée au vent tiède et parfumé, elle songeait que la douleur n'avait pas d'importance. À quoi bon parler de ce langage infirme, puisque le temps indifférent étranglait la clarté et la ranimait chaque jour. Le prince un jour le comprendrait, il ne pouvait en être autrement, et il la rejoindrait dans sa contemplation silencieuse et perpétuelle. Elle avait la certitude rayonnante de voir clair et de détenir en sa conscience éblouie la seule vérité qu'humain pût étreindre. Le miracle, pensait-elle, le miracle de la sensation, le miracle de la vie envahissant de son flot invisible tous les corps, respirer l'air libre. Elle ne chercha pas à savoir combien de temps elle demeura immobile sur la roche, absorbée dans sa méditation profonde. Ce furent quelques gouttes de pluie filtrant à travers les rayons dorés qui l'arrachèrent à son hypnose. C'était déjà le deuxième soir qui tombait sur la mer, et une terreur irrationnelle s'abattit sur elle. Vivre, puisque rien ne signifiait rien, vivre et découvrir chaque arpent de cette terre, elle ne désirait plus rien d'autre, et la cruauté de sa promesse donnée lui apparut tout à coup, inexprimable, injuste. Elle n'était pas maîtresse de sa vie lui était donnée à l'essai, et si le prince la trahissait avant le crépuscule suivant, c'est à la mer, noyée, qu'elle reviendrait, pour se dissoudre en écume. Blanche et vaporeuse, mourait et renaissait l'écume sur le bord instable de l'eau. La sirène eut un frisson glacé, et, bravant encore la douleur qui tailladait ses jambes, elle s'élança vers le château. Lorsque la sirène fit irruption dans la salle, le prince et la princesse étaient assis l'un en face de l'autre, calmes et graves. Leurs vêtements somptueux semblaient se fondre à la richesse des canapés, et la lumière incertaine qui filtrait des vitraux leur donnait une teinte de cire. La sirène et la princesse se regardèrent un long moment, sans que personne ne parlât. Le prince se leva. « Je te présente ma cousine. » La sirène n'arriva pas à sourire, fascinée par la beauté délicate et terrestre de sa propre mort. « Comment vous appelez-vous ? » demanda la princesse en souriant tristement. La sirène se sentit affolée et regarda le prince. « Elle est muette, dit-il. J'ignore son nom et son origine. Elle est arrivée au palais hier matin. » La princesse se sentait envahie par des sentiments indistincts. Curieusement, malgré l'infinie grâce de la sirène et la clarté envoûtante de son regard, il n'y avait pas en elle de jalousie. Seulement la peur de devoir céder la place à un être plus parfait, ainsi qu'une sympathie instinctive pour celle qui pouvait consommer son malheur. « Savez-vous écrire ? » demanda-t-elle. La sirène hocha la tête négativement, désemparée par la douceur naturelle, la compassion qui entourait son désastre. « Comme ce doit être difficile !» murmura la princesse. Le prince sourit à la sirène. « Tu veux bien m'attendre là-haut ? » lui demanda-t-il gentiment. « Demain, je t'apprendrai les lettres. » Il ne comprit pas la terreur qui défigurait ses traits, et l'idée l'effleura que peut-être elle ne comprenait pas toutes leurs paroles. Il lui caressa la joue, et elle sortit précipitamment de la salle, dans un désordre si grand qu'il en conçut une certaine inquiétude. « D'où peut-elle venir ? » demanda la princesse. « Je ne sais pas. Quand on lui pose la question, elle désigne la mer. » « C'est peut-être une sirène ? » dit-elle avec un sourire vague. Il sourit lui aussi du même sourire. « Oui, ce nom lui va bien. » Il leur fallut quelques minutes pour recréer leur solitude et reprendre le fil tortueux de leurs souvenirs et de leurs conversations. Le sommeil et la nuit les surprirent, et ils se quittèrent à regret, avec une politesse excessive, au seuil de la chambre verte. Le prince et la sirène s'éveillèrent assez tard. Lorsqu'il ouvrit les yeux, accoutumé désormais à sa présence, elle le regardait de ses yeux énigmatiques. « Tu es triste, dit-il. » Elle baissa la tête. Comment lui parler de la mort qu'elle sentait poindre avec le jour et dont le sentiment l'étourdissait ? Elle posa désespérément la tête sur sa poitrine, et tandis qu'il jouait du bout des doigts avec ses cheveux aux reflets verts, elle pensait au pouvoir de sa voix qu'elle avait vendue en échange de ses jambes. Elle essayait de se souvenir de son timbre et des airs angéliques qu'elle chantait au milieu du désert marin lorsqu'elle nageait assez longtemps pour remonter à la surface. Des visions lui revenaient de son palais aquatique et des volutes de poissons irisés qui s'en mêlaient dans ses cheveux. Elle avait tant espéré de l'autre monde, elle en avait reçu en effet tant de beauté, et maintenant, ce soir, tout éteindre. Un frisson de peur la parcourut. Elle releva la tête et essaya d'articuler des mots, mais la vibration ne sortait pas de sa bouche. Elle n'arrivait à produire que des soupirs silencieux. Le prince la regardait avec bienveillance et amusement. « Ce n'est pas grave si tu ne parles pas, » dit-il. Elle se releva brusquement. « Que fais-tu ? » Elle ne l'entendait plus déjà. Elle était dehors, une veste de soie à peine enfilée. Elle ne voulait pas attendre ici que le jour s'achève. Elle ne voulait pas savoir si ce serait le dernier. Elle voulait vivre, marcher sur la terre, gorger ses yeux d'images et sa peau de frissons, pour emporter avec elle, dans son au-delà d'écume, un peu des sensations humaines pour lesquelles elle s'était damnée. Le prince rejoignit tardivement la princesse. Il fut frappé par son visage altéré, qui portait à travers le phare les marques d'une longue insomnie. Elle était aussi belle, cependant, simplement vieillie, et il eut l'impression bizarre de la regarder pour la première fois. Elle s'efforça de sourire à son entrée. « J'ai vu votre sirène partir ce matin. Elle marchait d'un pas étrange, comme si son mouvement lui poignardait les jambes. » Le prince s'approcha d'elle. « Je n'arrive pas à vivre, » reprit-elle doucement, en regardant ailleurs. « Depuis des années déjà, il y a ce terrible ennui et cette indifférence. » Il écoutait la voix faire vibrer en lui une autre voix familière, celle de l'immobilité et de la désespérance, qui s'était momentanément tue. « Je ne sais pas quoi faire de mes jours sans fin, » continua-t-elle, « et chaque chose que j'entreprends se met bientôt à ressembler à une errance. »« Oui, » dit-il simplement, « je ne connais pas la solution. » Elle le regarda craintivement. « Éprouvez-vous ce dégoût, vous aussi ?»« Je l'appelle ma langueur. Parfois, il me semble l'avoir presque apprivoisée, et parfois elle me submerge. Alors je me saoule. Je cherche au fond du vin ce qui me donnerait la force de poursuivre. » Une joie grave et solennelle se répandait en la princesse. L'entendre parler était comme une drogue réparatrice, car à travers leur détresse, ils étaient ensemble, communiant en cela comme ils avaient communié dans l'enfance. « Épassez sur les plaies les baumes du souvenir, » dit-elle. Il lui sourit. « Je ne suis pas nostalgique. Nous étions pourtant si heureux. » Il s'efforça de penser à ses parents, à la manière dont ils comblaient le château de bruit et de gens. Il se souvint de ses occupations solitaires et de sa cousine chérie dont les visites étaient tant attendues et les départs si douloureux. Oui, elle avait raison, ils avaient été si heureux. Que s'est-il donc passé ? Je ne sais pas, dit-elle, la mort et toutes ces choses que le temps accumule. Ils se regardèrent brièvement. Nous sommes seuls au monde, poursuivit-elle, d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée. Il réfléchit à ce qu'elle venait de dire. Seul au monde. Tous les fantômes avec lesquels il buvait et jouait depuis quelques années n'existaient pas. Rien n'existait, pas même la sirène muette. Il songea à la joie qu'il avait éprouvée en revoyant sa cousine, quelqu'un enfin le rejoignant sur son sommet désert. Elle avait rivé sur lui ses yeux humides. « Il faut que vous m'épousiez, mon cousin, ou nous allons mourir de solitude. » Il tourna la tête vers la fenêtre. Étrange, cette sensation qui l'empêchait de parler. Il n'avait pas imaginé qu'une parole pût bouleverser tant de choses profondes en lui. Il la regarda, avec un sourire. Elle était pâle comme la mort. Il prit sa main et la posa sur la sienne, l'invitant à se lever. « Vous ne rentrerez pas chez vous, » dit le prince. « D'ailleurs, votre château est sinistre. Nous le vendrons pour nous offrir un voyage de noces extravagant. Nous serons les plus beaux mariés du royaume, ma cousine, et nous ne nous quitterons jamais. Vous finirez par briser ma langueur, et je vaincrai votre dégoût. » « Et lorsque je serai vieille, » demanda la princesse en pleurant, « je vous tiendrai la main de l'aube au crépuscule, et je vous raconterai nos souvenirs. » Presque imperceptible, douce, la mort était en elle. Elle la sentait dans son corps, prête à prendre possession des lieux, déjà souveraine. La vie finissante ne se débattait pas. Son corps était calme, immobile. Cela se passerait sans doute presque voluptueusement. Elle n'avait qu'à penser au prince, imaginer qu'elle était dans ses bras, La sensation serait presque la même. Il n'y aurait plus de douleur dans ses jambes, ni d'impuissance dans sa voix. Elle n'aurait plus à supporter tout cet immense remords et toute cette solitude. Elle reviendrait à cette eau qu'elle n'aurait pas dû quitter. Tout s'effacerait. La mer devenait plus sombre à mesure que la lumière baissait. Seule l'écume mouvante continuait à briller blanche et dorée sur le sable. La sirène retira la veste de soie et la laissa tomber, puis elle s'approcha du rivage. Le vent était tiède sur sa peau et l'eau douce à ses pieds. Elle ne se rappelait plus que la sensation infinie de vivre. D'une des fenêtres du château, la servante regardait, fascinée, sa silhouette irréelle dans le contre-jour. Lorsque le soleil touche à l'horizon, un rayon vert aveuglant plongea l'univers dans une lumière étrange. Une veste de soie gisait sur le sable. Seule l'écume obscurcie, vaporeuse, mourait et renaissait sur le bord instable de l'eau.